Bienvenue à tous, nous sommes le jeudi 17 octobre en direct de Rouen pour la session de clôture de la conférence Codeur en scène et pour l'épisode numéro 8 de NIPDEV. NIPDEV, c'est le podcast de la communauté NIPTECH qui est dédié au développement et à la programmation. Alors dans NIPTECH, on va parler de NewsTech, de nouveaux services web, de nouvelles startups, de nouvelles applications. Et avec NIPDEV, on a eu l'idée et l'ambition d'aller de l'autre côté de l'application, d'ouvrir le capot et de voir comment tout ce dont on parle dans NIPTECH est développé. Et on a aujourd'hui, grâce à l'équipe Codeur en scène et à Youn, l'occasion de faire notre premier enregistrement live. Et l'objectif, c'est de faire découvrir à ceux qui n'avaient pas la chance d'être là aujourd'hui, donc aux auditeurs qui, aux environs pour l'instant 1500 auditeurs qui téléchargent toutes les deux semaines le podcast, de faire découvrir l'événement, puis de leur donner envie de venir l'année prochaine. Donc je vais commencer par laisser la parole à Youn pour nous présenter l'événement.
Donc Codeur en scène, ça s'est décidé il y a au mois de décembre 2012, autour d'une bière avec Alexandre Ronceau qui n'est pas très loin. Donc faut savoir que dans la région rouennaise, il y a deux grands mouvements. Il y a la partie Java qui organise des sessions depuis 4 ans et une nouvelle association qui est NWX qui promeut tout ce qui est web. À la fois sur la partie marketing, CEO, etc., et à la fois sur la partie technique. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un mini DevOps, un mini Paris Web sur Rouen, en amenant les speakers les intervenants qu'on aimerait avoir. Et donc ça a démarré avec des Google Hangout tous les mardis, depuis 10 mois. Et on est arrivé jusqu'ici, on a eu des super intervenants, on a eu le public qui allait avec. A priori, tout a bien tourné, et donc on est très content.
Alors je peux confirmer, puisque moi j'étais pas intervenant, j'étais participant, c'était vraiment des talks très très intéressants avec des speakers de renom. On a une partie d'ailleurs qui vont intervenir pendant le podcast, et une organisation sans faille, puisque c'était vraiment bien. Donc une première bravo pour cette première expérience.
Merci aussi à toute l'équipe. Donc ils sont en dehors en train de discuter, mais il y a Alexandre et Bertrand de la partie web, Guillaume et Dimitri de la partie agilité, et ensuite Fabien, Yann et Yann avec un de Solène, et moi-même de la partie Java.
D'accord. Eh ben un grand merci, un grand bravo, et puis bonne chance pour vous. Prévoyez de refaire ce type d'événement régulièrement ou...
Normalement, dans un an, on a investi dans des supports pour pouvoir le refaire. On a fait 2-3 erreurs qu'on va corriger, ça devrait bien se passer.
Ok.
Sans doute au même endroit parce qu'on a 3 grands amphis à côté, donc ça devrait.
D'accord. Ben rendez-vous l'année prochaine alors.
Merci Fabrice.
Voilà, donc ce qu'on va faire pendant cette heure, on va essayer de se caler sur une heure parce qu'il sera tard ensuite, c'est reparcourir l'ensemble des sujets qu'on a pu voir pour les résumer. L'idée, c'est pas de les refaire, bien sûr, les résumer, puis peut-être d'y apporter quelques questions et puis un angle un tout petit peu différent. Donc on a la chance d'avoir parmi les speakers Alexis qui est là, José et... Elial, voilà, je vous laisserai vous présenter un peu plus en détail quand on abordera les thèmes que vous avez évoqués. Et quelqu'un qui n'était pas speaker, qui a déjà participé à NIPDEV, qui est Nicolas. Et comme on fait, quand on fait du software, on fait du reuse. Nicolas va très probablement sur son blog parler de Codeur en scène. Je me suis dit que c'était une occasion unique pour moi de profiter des talks auxquels il est allé et puis de pouvoir nous en parler également. Voilà, l'idée aujourd'hui, c'est qu'il y avait, je pense pas que tu l'as dit tout à l'heure, il y avait trois tracks différents, autour l'un orienté web design, la partie vraiment très front.
En fait, le truc, c'est que chaque association a fait son track, le track qu'il voulait. Donc c'est en avant, 3 pôles en autonomie. On s'est parché beaucoup de choses entre l'agilité et la partie Java aussi, mais c'était aussi pour que les différentes communautés puissent parler ensemble. Parce que comme on l'a vu au DevOx et tout ça, il y a 30-40% de web maintenant, donc.
Ouais. Donc les tracks c'était web et web design avec vraiment un focus sur la partie interaction avec l'utilisateur et développement du front.
Avec de la performance, de la qualité, la psychologie des personnes qui utilisent le web, etc.
Ouais. Un track agile.
Donc là on a eu beaucoup de live coding, notamment avec David et Jo Laurent qui ont assuré la moitié des choses, aussi du Lean Startup. Mm-hmm. et Pascal qui nous a fait la présentation Real Option qui a à chaque fois remixé.
D'accord. Et un track Java.
Et un track Java, donc une matinée avec MongoDB, la programmation parallèle qui était aussi un pari parce qu'on ne savait pas si on mettait les lambdas ou ça avec José. Et ça, la salle était pleine parce que c'est tous les développeurs Java, ils travaillent là-dessus à un moment donné.
D'accord, exactement. Donc on va reparcourir un petit peu ces trois sujets-là pendant
et l'après-midi, on avait le cloud computing, les langages avec Groovy, J2O7 et JavaScript. Et une partie plus sur la qualité, le DevOps, qui a été complétée par Eyal sur la partie Android.
D'accord, ah oui, ok. C'est vrai qu'il y avait cloud, il y avait toute une partie cloud l'après-midi.
Également. Donc 25 sessions en tout.
25 sessions, combien de participants ?
250 participants qui étaient inscrits. On en a eu, je pense, 190-200, plus les 50 intervenants, organisateurs, aides à l'accueil et tout ça.
D'accord, donc 250.
Voilà.
D'accord. Ok, et la keynote de démarrage, c'était...
C'était Pierre
Piezardi.
Voilà, je vous laisse dire.
Pierre Piezardi.
Voilà, sur... tout écouté.
Sur Berlin. on va commencer par là. Donc, et notamment ce que j'ai retenu de la keynote. Et puis ensuite, je pourrais te passer la parole, peut-être Nicolas, pour compléter. Donc, le sujet, c'était le rôle du développeur, finalement. Moi, je l'ai retenu. Hein, le rôle du développeur pour les nouvelles types d'applications qui mettent le client et le fournisseur, qui raccourcissent très fortement la chaîne de valeur et mettent les clients et les fournisseurs du service acheté par les clients en relation quasi directe. Donc le focus était mis sur la complexité finalement engendrée par l'organisation en entreprise, qui a des raisons historiques, qui est nécessaire dans certains types de métiers où il y a besoin de régulation notamment. Mais cette complexité aujourd'hui, dans certains, le constat était fait, en tout cas, c'est dans certaines activités, n'était pas forcément nécessaire. Et surtout, grâce à Internet, grâce à la dématérialisation et la numérisation des échanges, on a aujourd'hui l'opportunité de construire des modèles, des business models, où le client est remis au centre de la chaîne de valeur, et où, du coup, pour la production du service, le développeur et l'équipe de développement, l'équipe IT, est également remis au centre du système. L'idée aussi, c'est de faire prendre conscience à chacun d'entre nous qui étions dans la salle, puisque je pense qu'il y a 95% de développeurs, à refaire prendre conscience à chacun d'entre nous que quand on travaille sur ce type d'activité, notre rôle, il est beaucoup plus, il a un impact beaucoup plus important qu'il peut avoir dans une structure où finalement l'IT est qu'une petite partie, l'informatique est qu'une petite partie et noyée un peu au milieu du reste. Et là, je sais pas s'il a fait exprès, mais à un moment donné dans son intervention, il m'a donné l'idée du titre du podcast qui va être codeur à l'avant-scène. Voilà. Parce qu'il a dit vous êtes à l'avant-scène. Donc le titre du podcast, ça sera codeur à l'avant-scène. Je sais pas si tu as retenu d'autres choses, Nicolas.
Le titre, c'était « Fier d'être développeur » avec un point d'interrogation. Donc déjà, ça pose la question, est-ce que nous, on est fiers d'être développeur et comment on voit notre métier ? Donc moi, j'ai bien aimé, quoi. Pour commencer la journée, prendre le temps de réfléchir un petit peu sur notre métier, sur comment on envisage l'avenir, sur la façon dont aussi dans les entreprises, l'informaticien, le programmeur ou le développeur est perçu. Et là, juste avant de venir pour l'enregistrement du podcast, on a eu Jean-Laurent de Morlon qui a un peu refermé la parenthèse et qui a aussi proposé des sujets autour de qu'est-ce que c'est que réellement être un programmeur aujourd'hui. Et c'était vraiment intéressant. Donc voilà, en dehors de la partie technique dont on va parler, il y avait pas mal de... Enfin, je pense que c'est agréable de commencer une conférence par une keynote où on parle pas de technique, mais on parle un petit peu du métier de développeur.
Oui, donc la keynote effectivement très important, très intéressant, pardon, et puis ça avait l'avantage d'ouvrir le panorama et puis de redonner du sens à notre métier, si on avait besoin, ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Ensuite, alors moi j'ai commencé par assister à une session qui parlait de persuasive design. Donc là l'idée c'était moi ce que j'ai retenu c'est un peu de dire tiens qu'est-ce qu'on peut utiliser des techniques de vente. Finalement quand on fait un site sur internet, l'objectif est de bon après on peut mettre des mots plus intelligents comme engagement, etc. L'objectif c'est quand même de déclencher un acte de consommation et un acte d'achat. Donc comment en fait transposer des techniques de vente qui sont assez connues dans la vente classique sur le web. Donc là, on a, moi, il y a pas mal de trucs qui m'ont fait penser au bouquin Influencer avec intégrité ou quelque chose comme ça, qui est un bouquin d'un vendeur, en fait, de dire, bah tiens, finalement, un exemple, en déclenchant, alors il y avait deux choses, il y avait tout un tas d'exemples, de dire, déclenchant un engagement avec des questions simples, où l'utilisateur, pour peu qu'il arrive sur la page, il clique tout assez naturellement sur les boutons parce qu'il prend aucun engagement en faisant ça. Mais le fait de le faire, ça va lui faciliter la prise d'achat, le fait de passer une commande ou de s'engager réellement ensuite. Et l'exemple dans le monde réel qu'on lit dans les bouquins, c'est par exemple, si vous demandez, vous êtes dans la rue, vous demandez un euro à 100 personnes, vous allez avoir un certain ratio. Et si vous commencez par demander l'heure aux personnes et demander un euro ensuite, ben, le ratio va considérablement augmenter. Donc c'est un exemple aussi. Je pense pas qu'il l'ait donné là, mais l'idée, c'est tous ces petits trucs qui sont à mi-chemin entre l'engagement et la manipulation. Tous ces petits trucs, comment les répliquer dans le monde du web. Avec une partie que j'ai trouvée intéressante, c'était de dire aussi, il faut faire attention parfois parce que engagement signifie pas aller jusqu'au bout de l'acte d'achat. Et il donnait par exemple le cas dans un supermarché où en fait ils avaient fait une expérience de mettre des pots de confiture sur une table. Donc sur une table ils avaient mis 6 pots de confiture à plat n'importe comment et sur une autre 24 un peu avec une forme un peu originale. Et 60% des gens s'arrêtaient devant une et 40% devant l'autre. Donc on dit, ah ben, c'est génial, c'est les pots qui fonctionnent. Par contre, sur les 40% qui s'arrêtaient, il y en avait la moitié qui achetait la confiture sur le truc qui était moche. Et il y en avait, je sais pas, genre un dixième sur l'autre. Donc tout ça pour dire, attention, parce que l'engagement signifie pas forcément volonté d'aller jusqu'au bout. C'était intéressant, un talk pas technique, plus sur le comportement, plus sur l'aspect comportement des utilisateurs du web. Que j'ai trouvé intéressant, même si là, j'ai pas trouvé de choses directement utilisables dans le cas d'un projet, mais ça faisait au moins prendre conscience qu'au-delà de l'aspect technique, il faut s'intéresser à l'ergonomie et à comment l'utilisateur perçoit le site et quoi faire pour qu'il avance et qu'il s'engage plus. Nicolas, tu as fait des sessions sur la partie web ?
Alors moi, j'ai fait agilité, en fait, essentiellement aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui ont fait plus du web dans mes voisins à côté? On est 5 à 6 côte à côte, on a des micros. Donc non, moi je suis allé voir Jean-Laurent pendant que tu regardais ça, qui faisait du live coding JavaScript, donc c'était dans la track agilité, c'était sur mettre en œuvre l'écriture de test avec Phantom JS, avec donc des technos assez sympas, et puis c'était une partie un peu théorique et puis après une partie pratique où voilà, à la fin il nous a montré un petit peu en direct ce que ça pouvait donner, et la finalité c'était de montrer comment on teste un site web et comment on fait des tests du UI, donc comment on teste un site web de l'extérieur. Et comment on maintient ces tests et comment ces tests-là on peut les lire, et en fait comment en 2013 on peut faire ça assez simplement. Moi voilà, techiquement j'ai appris quelque chose et puis le format était sympa.
Et moi le dernier talk que j'ai fait sur la partie web, c'était JavaScript natif où la personne montrait que aujourd'hui en fait, si on utilise aussi beaucoup par habitude des frameworks comme jQuery, il y a pas mal de support qui est natif, notamment sur les dernières versions des browsers, pour faire la même chose avec du code où on n'a pas besoin de framework finalement. Et il donnait pas mal d'exemples concrets où on n'était pas obligé d'utiliser notamment jQuery, puisque c'était un peu centré autour de jQuery, hein, qui permettait d'avoir du code qui est pas plus verbeux, mais qui est par contre beaucoup plus performant. Et quand on va avoir DOM 4 dans les prochaines générations des browsers l'année prochaine, il y aura encore plus de bonnes raisons d'utiliser directement les API fournies par les browsers. C'était aussi intéressant et là, par contre, directement exploitable. Et ensuite, je suis allé voir la session de José qui parlait de parallélisme. Donc José, je vais te laisser la parole, puis peut-être tu peux te présenter en quelques mots.
Oui, bonjour. Bonjour aux auditeurs du podcast. Me présenter en quelques mots. Je m'appelle, ça fait 3 mots. José, ça fait 4. Il faut que j'en mette plus.
100.
100 mots, voilà, c'est trop long, 100 mots. Voilà, donc je suis ici en tant que... Enfin, je suis venu ici invité par l'équipe d'organisation, que je remercie d'ailleurs au passage, pour parler de programmation parallèle. Pourquoi est-ce qu'on peut s'intéresser à la programmation parallèle aujourd'hui? dans l'univers Java, sur la plateforme Java, mais à mon avis dans n'importe quel univers de programmation, enfin dans n'importe quel environnement de programmation, c'est tout simplement parce que je pense que c'est l'un des enjeux majeurs des applications pour les quelques années qui viennent. On commence à avoir des outils, on va dire, dignes de ce nom pour programmer des algorithmes en parallèle. Ces outils sont très utiles parce que programmer des algorithmes en parallèle soi-même, c'est quelque chose de complexe. Complexe à la fois pour gagner des perfs et pour programmer des algorithmes corrects, parce qu'évidemment si on se fiche de gagner des perfs, si on accepte d'en perdre, ça c'est plus facile, et si on se fiche de faire des programmer des choses qui donnent des résultats corrects, c'est également encore plus facile, et quand on multiplie les deux, c'est d'autant plus facile. Donc c'est ces deux choses là donc on va avoir des outils extraordinaires, et qui dit outils extraordinaires dit utilisation aussi nouvelle, et utilisation nouvelle, bug nouveau. Et donc, méthode de test nouvelle à mettre en œuvre pour essayer de détecter ces bugs. Et je pense que ça va pas être une mince affaire, ça va être un des défis probablement de la programmation dans les années qui viennent. Je voudrais rebondir un peu sur ce qui a été dit sur la keynote d'ouverture, parce que ça m'inspire quelques réflexions. On parle du métier de développeur, et on parle du développeur au singulier, et moi je suis persuadé que depuis pas mal d'années, probablement peut-être même une petite dizaine d'années, la notion de développeur a énormément évolué, le métier a énormément évolué, probablement aussi du fait de la multiplicité des technologies et des moyens techniques mis à la disposition des équipes de développement pour résoudre des problèmes, y compris des problèmes identiques. Aujourd'hui, j'ai un problème, je sais pas, créer un panier sur un site web ou programmer une machine à laver ou des feux tricolores. J'ai toute une flopée de solutions disponibles. Certaines sont très à la mode, certaines sont moins à la mode. Certaines sont poussées par des DSI ou des gens comme ça, et puis d'autres sont poussées plutôt par les développeurs pour des raisons différentes. Il n'empêche que, de mon point de vue, il y a assez peu de points de ressemblance, y compris au niveau des préoccupations, entre quelqu'un qui sait programmer des microcontrôleurs en C ou des choses extrêmement bas niveau, et puis quelqu'un qui sait faire de la programmation web ou mobile avec toutes les contraintes de design, d'ergonomie, etc. que ça peut apporter. Et j'ai un peu le sentiment que le discours sur le développeur, qui est un discours qui est tout à fait louable et tout à fait respectable, hein, ça j'ai aucun problème là-dessus. Je pense que c'est un discours qui est en train de devenir un peu démodé, dans la mesure où le développeur, je sais pas très bien qui c'est. Est-ce que c'est celui qui sait programmer un Z80 avec 8 kilos de RAM, ou quelqu'un qui sait développer une application qui va être déployée sur le cloud, sur un cluster de 50 000 machines, etc. Est-ce qu'il y en a un qui a plus de compétences que l'autre? Je sais pas. Je pense pas, parce que c'est des compétences qui sont différentes. Voilà. Et je pense que dans la programmation parallèle, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la programmation parallèle peut être vue de deux points de vue. Du point de vue très bas niveau, j'ai un processeur, éventuellement plusieurs sur une carte mère. Chaque processeur a des multicœurs. Je peux ne pas du tout m'intéresser à ça et juste appeler une méthode qui s'appelle parallèle, que ce soit en Java, en Scala, en C#, en C++, en ce que je veux, dans n'importe quel langage, et puis ça va marcher. Je vais croiser les doigts en priant pour qu'effectivement ça marche, mais on peut penser quand même que dans la majorité des cas ça va marcher. Et puis je peux également essayer de gratter un petit peu la surface, savoir comment les algorithmes fonctionnent, savoir comment les processeurs multicœurs fonctionnent, comment les architectures sont faites, comment les problèmes de cache sont organisés, etc. Je vais résoudre les mêmes problèmes, peut-être avec un petit peu plus de recul et avec un petit peu plus d'intelligence. Curieusement, le fait d'être plus face au très bas niveau va me donner plus de recul. C'est quand même assez paradoxal, mais c'est comme ça. Et donc, avec plus d'efficacité, plus de compétences et probablement aussi plus de valeur ajoutée. Et ça aussi, je pense que c'est un challenge pour les développeurs jeunes, hein, moins de 5 ans d'expérience, voire ceux qui arrivent sur le marché du travail, parce que ça veut dire qu'il y a une quantité de connaissances à acquérir pour atteindre ces niveaux de compétences qui explosent complètement. Un développeur qui arrivait sur le marché du travail en 90... excusez-moi, mais c'est à peu près mon cas. Il connaissait le Z80, il connaissait le 6502, processeur 8 bits, jeu d'instruction pas trop développé, éventuellement quelques autres processeurs un peu plus évolués, un peu plus sophistiqués. La programmation multithread, c'était quand même vachement simple à l'époque. Aujourd'hui, les processeurs, c'est des Core i5, c'est des Core i7, c'est des ARM, c'est des AMD, c'est des Spark, T3, etc. Des choses incroyablement plus complexes, avec des langages qui tournent dessus qui sont également incroyablement plus complexes, avec des machines virtuelles, CLR de C#, Java Virtual Machine, etc. Et je ne parle même pas de la programmation sur téléphone mobile, etc., qui répond encore à des contraintes différentes, dont on n'a absolument pas conscience quand on fait uniquement de la programmation sur machine. Donc là, on est vraiment face à des challenges absolument incroyables, et c'est un peu aussi le message que j'ai voulu délivrer lors de cette conférence, dont le succès m'a vraiment étonné, parce que c'est la programmation parallèle, c'est quand même pas un sujet super sexy, en tout cas moins sexy qu'HTML5, et malgré tout, ça intéresse les gens. Donc je pense qu'il y a aussi une conscience de la part des développeurs de l'importance de ces questions et de ces problèmes.
Moi, ce que j'ai retenu surtout, c'est que même si effectivement on a de plus en plus de support par les langages, par les frameworks pour faire de la programmation parallèle, presque paradoxalement, ça nous obligeait à envisager l'aspect algorithmique encore plus finalement que quand on se posait pas trop ces questions-là de commencer à paralléliser du code. Parce que de toute façon, comme tu le disais en introduction, la nouvelle génération de processeurs allait nous accélérer les choses tout naturellement.
Oui,
tu as montré des exemples très très concrets où finalement le parallélisme, essayer de paralléliser, c'était perdre du temps parce que mieux valait revenir à des fondamentaux. Et c'était vraiment super intéressant.
Il y a une vraie préoccupation, enfin, sur l'algorithmique. Je voudrais vraiment pas être vexant avec des gens que j'apprécie tout à fait par ailleurs, mais on voit des présentations où clairement ce qui ressort en premier, c'est que les gens ne maîtrisent pas l'algorithmique. Pour résoudre des problèmes, il y a des algorithmes. La plupart des problèmes qu'on se pose aujourd'hui en informatique, c'est des problèmes qui ont déjà été traités, déjà été étudiés, sur lesquels il y a déjà des algorithmes qui tournent bien, qui fonctionnent, qui sont efficaces, éventuellement parallélisables ou non. Et ces choses sont pas connues, quoi, sont juste pas connues. Que ce soit en calcul en entier, calcul en flottant, c'est deux questions complètement différentes, mais aussi en logique. En logique, donc en calcul booléen, hein, en arithmétique booléenne. Voilà. C'est vraiment dommage. Moi, je regrette ça.
Et pour reboucler aussi sur ce que tu disais un peu au début sur l'hétérogénéité du métier de développeur, moi, je le vis au travers du podcast, notamment, puisque le titre, c'est un podcast dédié au développement. Mais j'ai beaucoup de gens qui viennent, qui me disent « Ah, génial, j'ai découvert, je fais du développement web, j'ai découvert c'est quoi une base de données. » Ou aussi, j'ai découvert le fait de faire du continuous deployment, la méthodologie agile, etc. Et c'est vrai, sans même parler de développement en bas niveau sur du langage machine. Même à la limite, quand on prend une appli de gestion, aujourd'hui, les équipes sont tellement même souvent cloisonnées que les compétences sont complètement différentes quand je fais une application iOS pour un iPhone ou pour un iPad, ou quand je fais du NoSQL. Et finalement, on a aujourd'hui assez peu ont la chance, parce qu'il faut notamment du développement, et ça on en avait parlé avec toi, de l'expérience pardon, on en avait parlé avec toi Nicolas dans le podcast où tu parlais de ZapTravel, une très petite équipe qui aborde beaucoup de sujets très différents. L'expérience, ça veut dire quelque chose chez les développeurs. C'est pas évident à caractériser, parce que c'est pas le nombre d'années que j'ai fait sur tel framework ou sur du Java, c'est autre chose. Ok, merci José.
Merci.
Ensuite, on va passer directement à l'après-midi et au cloud, puisque on avait aussi aujourd'hui la chance d'avoir Alexis comme speaker, qui nous a parlé du cloud et du cloud de Google. Donc tu as le micro, c'est bon. Je vais te laisser te présenter aussi. Moi, j'aime bien, j'ai assisté à plusieurs de tes talks. Et ce que j'aime bien, c'est que tu parles d'abord du cloud avant de parler de Google. Sans parler de concurrence, il n'y a pas de genre d'Amazon ici, mais j'ai déjà, quand je vais aux présentations d'Amazon, ils parlent d'abord d'Amazon et beaucoup d'Amazon, un peu moins du cloud. Et encore aujourd'hui, c'était très intéressant parce que c'était d'abord orienté sur le cloud, ce qu'on peut en faire, l'intérêt et bien sûr de Google aussi.
Ok, merci. Donc je suis Alexis, je travaille chez Google, j'ai un passif chez Sun et un petit peu chez Oracle avant d'être arrivé chez Google où je m'occupe des relations avec les développeurs. En fait, c'était 3 sessions autour du cloud, donc il y avait Samuel qui parlait de son expérience de consultant qui aide les entreprises à aller vers le cloud, à décider de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée d'y aller en fonction de plein de critères, de savoir ce que les gens en attendent, de ce qu'ils en espèrent. Certaines sont de bonnes idées, certains y vont pour pour économiser de l'argent, c'est pas forcément la meilleure des motivations, comme la meilleure des motivations pour aller vers l'open source, c'était pas forcément de faire des économies, c'était plus une liberté. Là, c'est un petit peu pareil, c'est plus de l'agilité que le cloud, parce que on est capable de répondre beaucoup plus facilement à des à différentes demandes de marketing pour développer de nouveaux services, pour être beaucoup plus réactif dans la manière dont on développe. Donc c'est lui son métier, donc il a passé un petit peu en revue les technologies que lui a utilisées, qui sont essentiellement Amazon d'un côté et Google de l'autre. Et puis on avait également Nicolas Deloff qui parlait donc de CloudBees. Moi, ma partie était plus, on m'avait demandé de parler plus monitoring et management, qui est là non plus pas un sujet très sexy, hein, pour pas beaucoup plus sexy en tous les cas que le parallélisme. Et donc l'idée, c'est de comprendre ce qui pouvait changer quand on passait dans le cloud, de savoir à quel niveau on se positionnait entre une approche très basse de type infrastructure avec des machines virtuelles, bah, qui se trouvent être virtuelles, qui se trouvent être dans le data center d'un fournisseur de cloud, mais bon, qui pourrait être dans la salle machine à côté. Est-ce que les mêmes techniques s'appliquent en termes de management? Ce qui est vraiment important, je pense, dans le cloud, et notamment dans l'aspect infrastructure, c'est d'avoir une API pour être capable de gérer l'entropie du système. Parce qu'on a beaucoup de flexibilité, on a les pouvoirs d'un super-héros, mais les responsabilités qui viennent avec. Et les responsabilités, on les gère avec une API parce qu'on a de l'intégration continue, parce qu'on est capable de gérer les ressources dans la manière dont on les crée, on les supprime. Parce que tout ça derrière, enfin, ça a un impact très important sur la facture. Et si l'équation économique elle est pas résolue, on a fait tout ça pour rien et on a fait une belle expérience, mais on n'a pas un business. On a un business quand on a mesuré, on a quelque chose qui rentre, quelque chose qui sort, et au final, on fait un bénéfice. On a quelque chose d'intéressant. Donc il y a cette partie-là, surtout infrastructure. Et puis quand on est développeur, on n'a pas le droit de pas regarder les offres de type plateforme as a service. C'est juste pas possible. Après, on peut regarder, se dire, bon, bah, c'est pas pour moi pour telle et telle raison, parce qu'il y a encore, peut-être encore aujourd'hui, même si ça change un peu, trop de contraintes, sur ce qu'on peut faire, mais il faut admettre que quand on est développeur, on développe des fonctionnalités pour des clients, peut-être pour son marketing, peu importe pour qui, et que tout le temps qu'on passe sur l'infrastructure, même si on aime ça, même si on est compétent, même si on sait faire du bash, du SSH, du tout ce qu'on veut, bah c'est autant de temps qu'on passe pas à développer. Mmh. Et de temps en temps, bah il faut admettre que l'administration, le management, il est peut-être mieux fait par des gens dont c'est le métier, par exemple un fournisseur de cloud.
D'accord. Qu'est-ce qui fait que Google a commencé par commercialiser, sauf à ce que je me trompe, hein, du plateforme as a service et seulement ensuite de l'IAS?
Effectivement, App Engine, je pense que c'est sorti à une époque où on parlait même pas de plateforme as a service. Je sais même pas comment ça a été présenté à l'époque. L'idée, c'était chez Google, j'y étais pas à l'époque, mais quelqu'un comme Patrick Chanzon, qui était sur le podcast il y a pas longtemps, était dans cette équipe, me parlait avec des trémolos dans la voix, mais comme il le fait souvent, de cette idée de dire, nous en interne, c'est comme ça qu'on fonctionne quand on veut utiliser des ressources. On a un investissement énorme de data center, et en interne, il faut demander les ressources. Hein, on vient pas se servir, et on n'a pas non plus un environnement où ce serveur-là, c'est un serveur pour Google Maps, celui-là, c'est pour Gmail, et celui-là, c'est complètement mutualisé, et on va essayer d'optimiser au mieux les ressources, parce que c'est vraiment le métier de Google. Bien, tout ce mécanisme en interne qui est utilisé pour les différentes équipes, c'est d'externaliser ça et de dire, on va vous mettre à votre disposition de la puissance de calcul. Alors, il y a le parallèle effet classiquement avec le fournisseur d'électricité. Est-ce qu'on va avoir une centrale nucléaire dans son jardin, ou est-ce qu'on va prendre un abonnement chez qui on veut? Donc c'était un petit peu ça. Après, pourquoi on a fait de l'infrastructure aussi? Parce que il y a un marché, hein, concrètement, et que le marché du plateforme as a service met un peu de temps à mûrir, à s'ouvrir, à avoir la flexibilité que certains en attendent. C'est un endroit où tout ce qui est start-up, tout ce qui est mobile, tout ce qui est social, c'est un carton. Tout ce qui est entreprise, un petit peu moins. L'entreprise en particulier est beaucoup plus orientée sur le maîtrise de son environnement. Alors on veut bien outsourcer ça, on veut bien échanger CAPEX et OPEX, et bon, on va pas immobiliser de l'argent, on va plutôt louer à la ressource. Donc c'est plutôt une dichotomie entre typologie de client, entreprise, qui évolue beaucoup plus lentement vers du plateforme as a service, là où le plateforme as a service répond à des besoins et il y a plein de startups et plein de startups qui sont devenues très célèbres, qui ne pourraient pas fonctionner autrement qu'avec du PaaS, parce que du PaaS c'est zéro investissement, c'est j'ouvre un compte et derrière, que ce soit la base de données as a service, que ce soit les serveurs d'application, tout, c'est l'investissement de capital est quasi nul.
Un des freins que je vois, moi, pour les clients que je rencontre, en fait, quand se pose la problématique du cloud et ensuite, souvent elle se pose pas d'ailleurs, de l'IS ou du PaaS, c'est que les gens qui décident de passer vers le cloud, ils arrivent pas à comprendre. Enfin, j'ai du mal à leur expliquer la différence entre l'IS et le PaaS. Ce sont des financiers et même des DSI de très grosses structures. La différence, elle est pas subtile pour nous développeurs, mais eux, ils y comprennent pas. Ils voient pas la différence. Quand on regarde les acteurs du PaaS aujourd'hui, sauf Google, qui est un acteur historique reconnu, les autres, ce sont des sociétés qui sont pas connues du tout par ces entreprises. C'est pareil, les DSI, des très gros comptes, où les financiers connaissent Amazon, connaissent certains gros fournisseurs, mais CloudBees, ils connaissent pas, Heroku non plus, et ils vont pas commencer à sortir des choses qu'ils considèrent comme étant stratégiques pour eux, à tort ou à raison, chez des acteurs qu'ils connaissent pas.
On en est au tout début du cloud. Ouais. On vit, alors quand App Engine est sorti, c'était il y a des années déjà, et moi je me souviens, j'étais chez Sun, j'étais vert parce que ils avaient fait ce que je pensais Sun devait faire, fournisseur de matériel, ayant des data centers, ayant fait Java, et eux ils l'avaient fait, donc c'était un petit peu vexant, mais c'était vraiment l'an zéro, et on en est vraiment encore aux prémices, parce qu'un jour, bon, peut-être que des gens comme IBM, Oracle auront des vraies offres qui offriront des choses similaires. On en est assez loin, parce que ça bouleverse leur modèle de revenus, et donc du coup ils y vont très lentement, ils y vont forcer, mais ils y vont. Donc je pense qu'on se retrouvera dans quelques années et ça sera beaucoup plus commun, mais ça prend du temps.
Ouais, okay. Merci Alexis.
Je t'en prie.
Eh bien, je vais laisser la parole à Yael, c'est ça ?
Eyal.
Oh, j'étais dans le désordre. Bon. Eyal, qui nous a parlé d'Android, donc moi j'étais pas là, donc je vais te laisser te présenter ton talk. Et puis, peut-être, je te poserai des questions si j'en ai.
D'accord. Bonjour. Eyal Lesmi, je bosse chez Génie Mobile. C'est une petite boîte, une petite start-up qui bosse sur Android. Et mon talk. Alors, c'était j'essayais de sortir un peu des sentiers battus habituels des talks qu'on fait techniques et parler un peu plus de l'expérience utilisateur. En soi, le contenu, c'était des conseils pour les développeurs sur du développement et sur comment penser un peu une application. Mais l'idée était de raconter l'histoire de l'utilisateur, depuis le Play Store jusqu'à l'utilisation de l'appli au quotidien en passant par le premier lancement, etc. Et voilà. Donc de voir l'ensemble des frustrations, les analyser, pourquoi, quelles étaient les erreurs qui ont été faites et ben, comment les corriger.
D'accord. Donc c'était un talk avec des aspects techniques quand même, où il y avait quelques...
Oui. En fait, c'était le fil rouge était l'histoire. D'accord. Mais à chaque point, je peux te donner un exemple. Sur le Play Store, quand tu arrives pour télécharger une application, tu demandes de l'installer sur ton téléphone, on t'affiche une liste de permissions. C'est l'ensemble des fonctionnalités auxquelles ton application demande d'avoir accès. Et ça, elle dépend du développeur. Et s'il a mal pensé les choses, qu'il demande le GPS alors que finalement le GPS qui est quand même quelque chose de très intrusif, l'accès aux données de contact qui peuvent être totalement évitées dans pas mal de cas, on peut les éliminer. Donc plus le rôle du développeur sur le Play Store, c'est d'éliminer les permissions. Et comment le faire ? Bon, bah là, on rentre un peu plus dans le détail. Voilà un peu le principe. Donc le fil rouge est l'histoire. Et sur chaque point, on s'arrête. Où est le rôle du développeur ? Et comment il doit changer les choses ou repenser les choses pour que l'utilisateur soit satisfait.
Pour reboucler avec le cloud, moi ce que je me dis souvent sur la partie mobile, c'est que les développeurs mobiles sont confrontés exactement à des problématiques très similaires à ceux qui mettent des applications dans le cloud, dans la mesure où ils n'ont pas du tout la main ni sur leur environnement de déploiement, puisqu'ils vont déployer sur un App Store, ni sur leur environnement, encore moins sur leur environnement d'exécution, qui est le mobile de chaque personne. Donc les problématiques auxquelles un développeur est confronté, donc c'est pas les mêmes technologies, l'ergonomie est clairement pas la même, mais quand on arrive sur la partie operating, On est très proche en fait de ce qu'il faut faire en fait quand on développe, quand on déploie dans le cloud, quand on déploie sur un mobile, parce qu'on gère pas l'environnement nous-mêmes tout simplement.
Et j'ai envie de te dire oui, c'est vrai dans une certaine mesure, sauf que tu sais, cette histoire de fragmentation sur Android, c'est aujourd'hui quelque chose qui est énormément à relativiser parce que beaucoup d'efforts ont été faits du côté des constructeurs et de Google pour l'éliminer. Je peux citer dernièrement l'une des initiatives du de Google, c'est les Play Services. Donc en gros, c'est ramener sur l'ensemble des téléphones qui ont le Play Store des services auxquels ils n'ont pas accès via l'OS, de la gestion de GPS, ce genre de choses, tous les services qui tournent autour de Google, du backup, ce genre de choses. Voilà. Donc sans avoir de mise à jour de l'OS qui est lourde, qui demande de la validation, etc., ben, on peut ramener ce genre de fonctionnalité. Mais pour boucler avec ce que tu disais, je pense que justement les services sont, et le mobile est à penser comme une brique du service et doit, devrait, même dans beaucoup de cas, justement les cas extrêmes, bénéficier du serveur. Parce que c'est là qu'est l'intelligence, c'est là qu'est la puissance de la boîte. Je te parle très simplement de web service qui serait beaucoup trop lourd à envoyer sous format JSON. Mmh. Pourquoi pas utiliser d'autres formats, pourquoi pas même carrément exporter de la base de données en prenant conscience des problématiques techniques que ça peut avoir. Mais peu de web services aujourd'hui proposent du format SQLite, zippé, qui ferait gagner énormément de temps d'exploitation et de téléchargement sur le mobile et donc de temps d'attente et de batterie consommée. Donc là on a un impact direct sur l'utilisation de l'application sur le téléphone.
D'accord. Eh ben merci.
Avec plaisir.
Nicolas, tu as des choses auxquelles tu penses intéressantes pour les auditeurs qu'on n'a pas évoquées?
Moi je voudrais juste voir par rapport aux personnes qui sont dans la salle, je sais pas en fait s'il y avait des étudiants aujourd'hui. Je sais pas. En fait, je me pose la question. Je me revois quand j'étais étudiant là tout à l'heure, quand je me suis baigné dans les couloirs, ça m'a rappelé des souvenirs. Enfin, j'étais pas à Rouen. Et j'aimerais savoir si la journée que vous avez passée, alors vous allez lever la main, puis comme c'est un podcast audio, on va dire, voilà, il y a 550 000 personnes qui ont levé la main. Mais est-ce que ça vous a donné envie d'être développeur? Est-ce que vous vous attendiez un petit peu à voir ça? Enfin, est-ce que vous faites de la programmation déjà? Alors, levez la main, ouais. Il y en a, donc, on va dire, tous les étudiants lèvent la main pour dire qu'ils font la programmation. c'est un peu une question, sur laquelle nous, on s'interroge pas mal. C'est-à-dire que, voilà, on est dans notre métier. Le métier qu'on a connu quand on était, quand on a commencé à travailler, le métier évolue très très vite. José le disait tout à l'heure, la quantité d'informations qu'il faut qu'on apprenne, on continue à apprendre. Moi, je vais sur mes 38 ans, j'ai l'impression d'être tous les jours étudiant à apprendre des technologies et je pensais vraiment pas que ce serait comme ça quand j'ai commencé à travailler, mais le cloud n'existait pas, Android, iPhone, compagnie. Et en tout cas, il y a Jean-Laurent qui a fait tout à l'heure, Jean-Laurent de Morlon, qui est maintenant indépendant, l'ancien directeur technique de Xebia France, et qui a fait une présentation sur qu'est-ce que c'est, entre guillemets, être un programmeur, et ça m'a bien marqué. Je suis très bon client en fait, tu sais, des présentations qui essayent de nous mettre un petit peu, enfin partager et raconter son expérience quoi. Il a eu 40 ans hier, il disait 40 ans et programmeur, mais avec plaisir quoi. Donc j'espère que les gens qui ont passé la journée ici, pour les étudiants, vous aurez envie d'être à notre place dans quelques années. Puis nous on sera avec des sonotones au fond de la salle.
Le saut culturel qu'on doit faire encore en Europe par rapport notamment aux États-Unis, c'est la valorisation de ce métier-là dans l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, je trouve encore trop, alors sauf pour ceux qui travaillent chez Google ou Amazon ou Oracle, dont c'est le core business, mais des gens qui vont faire du développement toute leur vie dans une grosse structure, même en ICS2I d'ailleurs, le métier n'est pas valorisé. En fait, en tout cas, les gens qui font du développement longtemps, c'est parce que c'est beaucoup parce qu'ils sont passionnés. Alors, c'est d'ailleurs, il faut être passionné pour faire ce métier-là et tous les métiers. Mais malheureusement, beaucoup de gens, moi, pour faire du recrutement de personnes qui sortent de l'école, la première chose qu'ils ont envie de faire, c'est d'arrêter de développer. Hein. Ils ont fait des études de développement et ils se demandent quand je vais arrêter de développer pour être manager. Mais c'est un peu dommage.
Ouais, je me souviens quand j'ai commencé à travailler, au bout de 3-4 ans, j'avais envie d'être chef de projet. Et puis un jour, je suis devenu vraiment chef de projet. En plus, je vois qu'il y en a un qui a bossé avec moi à Reuters, donc il peut témoigner si je dis des bêtises. Et puis en fait, voilà, une fois qu'on est arrivé, en fait, si on aime réellement écrire du code, coder, et puis si on se tient au courant, et puis on est intéressé par tout ce qu'il fait. Là, j'écoutais Eyal parler d'Android. Moi, j'y connais rien, mais en l'écoutant, ça me donne envie d'aller voir. Bon, en fait. On s'amuse bien, Et puis on gagne bien sa vie en fait. On en parlait, Jean-Laurent en parlait tout à l'heure un petit peu. C'est une chose auquel on se rend pas très bien compte, mais réfléchissez à la liberté et puis en fait à ce qu'on peut faire. C'est enfin moi je peux vous témoigner que voilà dans les copains qu'on connaît là qui sont là aujourd'hui, on s'amuse bien et on gagne bien nos vies. Donc voilà.
Bien. Eh ben, je pense qu'on peut conclure sur cette note d'optimisme qui va donner envie aux auditeurs et à tout le monde de faire du développement. Merci à vous. Merci Nicolas. Merci José. Merci Yael. Et merci Alexis. Et puis à bientôt à tous les auditeurs. Donc, les prochaines conférences, c'est DevOps en Belgique.
Il y a DevOps en...
Il y a Scala.io la semaine prochaine.
Alors, Scala.io jeudi, vendredi prochain à Paris. Une conférence sur la programmation fonctionnelle. Et pour les développeurs Java, en fait, donc il y a DevOps en Belgique du 15 au 19 novembre. Il y a 3500 développeurs. Donc on y, je pense que tous ceux qui sont assis là, ils seront du 11 au 19. T'as raison. Du 11, enfin mi-novembre.
Novembre.
José qui est assis à côté de moi a raison. C'est mi-novembre. Et on peut faire un peu de pub pour DevOps France.
Oui, oui.
Parce que donc là, avec José, on est co-organisateur de DevOps France qui a lieu du 14 au 16 avril 2014 à Paris. C'est une conférence pour les développeurs avec du Java, du web mobilité et donc du 16 au 18. N'écoutez pas, je suis un peu fatigué. Du 16 au 18 avril 2014 à Paris. DevOps.fr pour en savoir un peu plus. D'accord. Merci.
Et ce serait pas de le faire de l'ombre à Codeur en scène que de dire que DevOps.fr c'est la plus grande conférence de développeurs Java francophone. Voilà. Et c'est super. Moi, je vis depuis le début, 2 ans, et j'encourage tous les auditeurs et tout le monde à y aller, même si à mon avis, il y aura pas assez de place si tous les auditeurs veulent y aller.
Et j'aimerais ajouter que même si la conférence est payante, parce que vu le budget, on peut pas se permettre de faire une conférence gratuite, il y a un tarif étudiant à DevOps France qui est à 30 € pour la journée. Pour 30 €, il y a le petit déjeuner, il y a le déjeuner, il y a le sac du speaker, etc. Quand on habite à Rouen, Paris, c'est une heure et demie de voiture, quelque chose comme ça.
Et 3 jours, 130 conférences, 1400 personnes. Voilà.
Oui, mais pour les étudiants, c'est juste la première journée. Ah. Et mais ça coûte 30 €. Donc vraiment, venez, vous êtes étudiant, profitez-en. Venez à DevOps France, vous allez vous éclater et en plus avoir du contenu technique vraiment haut de gamme. Merci.
Et si je peux juste ajouter un petit truc, puisque c'est le coin pub.
Oh, vas-y.
J'ai la chance de faire partie du Paris Android User Group, donc sur Paris, ce qui n'est pas à côté de Rouen, enfin juste à 1h20 de train. Et on organise tous les mois des confs gratuites avec pizza boisson à la fin. Donc c'est une communauté très active. Ah, bah, c'est fondamental la bouffe. Et d'ailleurs, à l'occasion de DevOps Belgique, et grâce à Alexis que je remercie, on va avoir deux personnes de la core team d'Android qui sont Romain Guy et Chet Haas qui vont venir parler. Alors, on imagine de l'UI Android parce que c'est ce sur quoi ils travaillent dans le framework. Donc voilà. La date c'était le 7 novembre, c'est ça? Ouais, 7 novembre au soir. Et puis après c'est le meetup, donc c'est meetup.pog.fr et ça va être, non, ce sera pas cette fois-ci chez Google, Nicolas, c'est la faute encore d'Alexis pour le coup, mais on aura une très bonne salle, on va aller dans une boîte.
Ah, c'est bien
comme
aussi.
Un bel amphi.
Ok, merci à tous, merci à l'organisation de Codeur en scène de nous avoir. Oui, bien sûr. Bah,
comme c'était là sans publicité, en marge de la conférence samedi, il y a tous les papas geeks qui amènent leurs enfants de 8 à 14 ans pour DevOps for Kids avec Audrey Neveu. Donc on fait ça dans la toute nouvelle pépinière, dans la cantine numérique. Et c'est de 14h30 à 18h. Et ça a été très très bien accepté par la presse généraliste. Et on a des directeurs d'école qui vont passer et tout ça pour voir ça. Voilà.
Ok, merci à tous, et puis rendez-vous dans 2 semaines, ou même un peu avant, puisqu'on va faire un épisode spécial Scala.io pour le prochain épisode. Ciao, ciao.